Oh la reine, la calanque des sirènes. Dans mes promenades autour du cap, il m'arrivait ainsi de ralentir le pas à cet endroit pour écouter une musique véritablement étrange. Aux périodes où règne le mistral, quand les vagues roulant de l'azur par son front folle qu'irritait, racaracole sous le ciel clair dans l'ivresse et dans la lumière d'une tempête en plein soleil, on eût dit, entre les rochers, quelque part, la lamentation sans fin de prisonnières ou de damnées. À d'autres moments, quand la mer s'apaise pour bercer plus molle et plus bleue le nid qu'un oiseau lui confia, pendant ces longues insomnies et accalmies appelées autrefois jours halcyoniens, c'était avec des vibrations de cristal, des caresses et des soupirs, comme un cœur de voix féminine, évocation délicieusement sacrilège, à la fois païenne et mystique, voluptueuse et mortuaire, de vierges sanglotantes au tombeau d'Adonis ou de cantiques entendus un jeudi saint derrière les rideaux des tribunes voilées parmi les parfums de l'encens et les palpitations des cierges. Mais que le vent soufflât ou non, tantôt dolente, tantôt révoltée, toujours du même endroit, la même harmonie s'élevait, distincte, sans qu'il fût possible de la confondre avec les autres cris, les autres plaintes de la mer. Un matin, je voulus savoir, en laissant le pied au sentier qui, à travers myrtes et tamaris nains, contourne la côte escarpée, bravement je m'engageais dans les roches. Par suite des dispositions de mon âme, cette expédition, d'ailleurs enfantine, me parut tout de même savoir je ne savais quoi de mystérieux. La solitude était complète. À mes côtés, rien que mon ombre. Au loin, unique point vivant, immobile dans le bleu du ciel, où descendait pour effleurer les troubles de ce fleur de son âme, oblique le gardien aux peines noires, nuancées, capulé en place des trop classiques colombes, donne pour confident aux messagers à la méditerranéenne Aphrodite. Et partout, dans les rochers blancs, sous le soleil, sous le miroitement de la mer infinie, des visions et des nuages. Car autant que la nuit, la divine lumière a ses fantômes, sphinges, chimères ou sirènes que voyait réel l'œil des Grecs, une surprise m'attendait. Et quoique le chemin soit incommode sur les crêtes aiguës et les tranchantes découpures d'un calcaire marmoréen et bizarrement corrodé par l'embrun et la soledade, qu'on peut les comparer à des pétrifications d'écume, je ne regrettais pas longtemps mon accès de curiosité. Les voix persistaient, me guidant de plus en plus caractérisés et sonores. Maintenant même, bien que le rigide mur de la falaise où le flot se brise fût encore éloigné de quelques pas, par une étrange hallucination de l'ouïe, il me semblait les entendre sous mes pieds. Et tout à coup, elles éclatèrent. Du milieu des rochers arides, une fumée légère monta, suivie d'un jet d'écume et d'eau dont les perles éclaboussant rejaillir jusque sur moi. Alors, regardant par-dessus un bloc écroulé, l'endroit d'où venait ce païen baptême, j'aperçus, régulier et taillé comme au ciseau, une sorte de puits quadrangulaire aux parois humides, tapissé de coquillages, de fucus et de flottantes anémones. Dans le fond du puits, une ouverture plus étroite laissait entrevoir par-dessous un scintillement d'eau profonde et verte. Et je disais, pour suivant mon rêve, « Oh, voilà, sœur d'une retraite souhaitée pour des divinités marines. » Quand, avec un grand rondement plus fort encore, je vis le flot bondir par l'étroite ouverture et remplir le puits d'une gerbe blanche qui me laissa une seconde fois m'inonda. Évidemment, il y avait là, communiquant avec la mer par d'invisibles soupiraux, une grotte où l'eau, retenue prisonnière, montait ou descendait selon le flux et le reflux. Et me rappelant, pourquoi ce détail ne m'avait-il pas frappé d'abord, que l'endroit sur les vieilles cartes est dénommé Calanque de la Sirène ou des Sirènes, et que les pêcheurs du pays appellent encore Rocher de l'Autel, l'ensemble des blocs qui font au puits sa cyclopéenne margelle, je me pris à songer que sur le banc promontoire s'élevait jadis avec son autel comme à Sorrente un temple dédié aux déités irrésistibles et cruelles par quelque nautonnier syrien ou quelque aventurier grec, Ulysse peut-être, s'égarant à travers ces mers inconnues. Alors, au fond de nombreux sanctuaires, comme aujourd'hui en plein soleil, par les trois soupirails et le chant des sirènes montaient et les initiés, se penchant, venaient écouter leur oracle. Puis l'autel disparut, le temple s'oublia, arrachés par l'assaut des vagues, les frêles colonnes de marbre s'écroulèrent, et de ce passé, il ne reste plus rien auprès du trou mystérieux où résonne encore un écho des voix falouques qu'un nom, le rocher de l'autel, que les pêcheurs répètent sans le comprendre. J'avais tort d'incriminer les pêcheurs. Le peuple est pris d'illusions, n'oublie jamais les dieux qu'il aima. Et l'on regarde à travers les siècles une âme obscurément reconnaissante. Voici ce qu'à propos du rocher de l'autel, un vieux pêcheur nous racontait, pas plus tard qu'avant-hier, dans le bigorneau de l'Islette, tandis que, sur des assiettes en écorce de chêne liège, avec de grandes nacres du golfe Juan pour cuillère, nous dégustions les tranches d'or d'un magistral bouillabaisse groupé autour du gigantesque poêlon, chef-d'œuvre de potier de Valoris. Il cube plus de 25 litres que possède aujourd'hui le brave Saint-Égousse, dernier survivant et seul héritier des six légendaires capitaines. Il racontait qu'autrefois, du temps des consuls, comme on dit, cette côte antiboise, de la sauce à la garoupe, était la cause de ces criques frangées d'un sable toujours tiède et de ces gouttes grotte ombragée par le mur, feuillage de pin extraordinairement abondante en sirène. On ne voyait partout que femmes poissons se jouant sur les flots ou prenant le soleil entre les roches, méchantes pour le pauvre monde et pourtant belles à damner avec leurs seins pointus et leurs cheveux tressés de corail qui cachaient, ce dont ils étaient longs, les écailles d'argent de leur queue. On en trouvait des nichées au printemps dans le creux de la mer, où la mer séjourne, et quoi qu'on s'empressât de les détruire, les sirènes pullulaient quand même, ne se plaisant d'ailleurs qu'au mal. Elle ne pardonnait à personne et attirait dans d'affreux naufrages aussi bien les mécréants que les chrétiens, aussi bien les tartanes de confrères de dévots de Saint-Pierre que les felouques barbaresques. Et le pire de tout, c'est que les filles du diable, Saint-Pierre et les autres saints, ne pouvaient rien contre elles, ignorant, paraît-il, les paroles qu'il faut pour les exorciser. Par bonheur arriva sur ces entrefaites le règne des fées, où il y en avait dans tous les pays. Estelle et Morgane. Estelle et Morgane pour la mer, Estelle pour les montagnes, bienfaisantes toutes les deux. Estelle et Morgane s'entendirent afin de délivrer le pays des sirènes. Morgane, un soir, les attira toutes dans un de ces châteaux de merveilles qu'elle se bâtire avec les ruines de la mer. Puis Estelle, ayant changé la brume en rocher, se vit une grotte fermée où les sirènes restèrent prisonnières. Durant les jours où la mer gronde, cramponnée à l'étroit soupirail par où leur arrive la lumière, elles font vacarme pour s'échapper. D'autres fois, espérant, comme jadis, ensorceler quelqu'un, elles chantent d'une voix douce. Car si jamais quelqu'un les aime, la grotte s'évanouira, enfumée, et le charme sera rompu. Eh bien, le mois prochain, dit Guillaumont, un de ses convives que le récit avait paru intéressé, on pourrait, à l'après-midi, pêcher à l'oursin et essayer de pénétrer en plongeant dans la grotte. La Myriouf l'approuvait fort et nous allions décréter l'aventure lorsque Saint-Agus s'écria, Saint-Agus par le nez de qui rien souvent ne parle par la bouche, sagesse. Quoi ? Il s'agirait d'aller délivrer les sirènes, mais pas de bêtises, mes enfants. Et laissons ces jeunes personnes tranquilles. Il me semble bien, Dieu merci, qu'avec les femmes, nous avons déjà sur le dos, au terre, une assez jolie peste, comme ça.